Je vais maintenant passer la parole au professeur Jean Salmon, lui aussi professeur émérite de l'ULB, titulaire pendant de longues années du cours, entre autres, du cours général de droit international public, fondateur, comme Olivier l'a rappelé tout à l'heure, du Centre de droit international de l'ULB il y a bientôt 50 ans maintenant, et qui, outre des intérêts multiples pour des sujets extrêmement variés en droit international, s'est intéressé depuis, j'allais dire, quelques années, mais ça fait déjà pas mal plus que ça, je pense, à justement aux contributions belges à l'évolution du droit international, et à ce titre, effectivement, à des figures marquantes du paysage académiques ou politiques belges qui ont joué un rôle en la matière, et c'est Jean qui est l'un des premiers, je pense, à avoir attiré notre attention à tous sur la personne même d'Henri Lafontaine il y a de ça quelques années maintenant. Il est, j'ai oublié de le mentionner aussi à propos de Martti Koskenniemi, ils sont tous les deux membres de l'Institut de droit international dont on vient de beaucoup parler, et donc ça leur donne certainement un éclairage supplémentaire qu'ils pourront partager, ou que Jean pourra maintenant partager avec nous sur cette question.
Voilà, bien, bonjour à tous. Je vais lire, parce que comme ça je suis à peu près sûr de ne pas trop dépasser mes 10 minutes. Pourquoi est-ce que Henri Lafontaine, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1913, alors qu'il avait atteint l'âge de 59 ans, il est vrai, en raison de son passé d'internationaliste et de pacifisme militant, est-il cependant resté un marginal par rapport à l'establishment juridique international de son temps? C'est cette question naïve que je me suis posée depuis qu'en 2013, on s'est mis à reparler de lui. À l'examen, lorsque l'on connaît son parcours professionnel et l'environnement juridique international de l'époque, il n'est pas trop difficile de répondre à cette question. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Né en 1854, il fait ses études de droit à l'université de Bruxelles, de Libre de Bruxelles. Il en sort docteur en droit à 23 ans, le 28 juillet 1877. Il est bon de rappeler qu'à l'époque, et jusqu'en 1970, le titre de licencié en droit n'existait pas en Belgique. Tout le monde terminait comme avec le titre de docteur, sans thèse. J'essaye de voir, à ce moment-là, il a dû avoir comme professeur de droit des gens Egide Arndt, qui était un juriste allemand d'origine, qui était venu ici et qui était un très grand personnage. Mais j'ignore si ce personnage en question a eu la moindre influence sur lui. 3 ans après, il y a 3 ans là de silence, Lafontaine s'inscrit au barreau. Il va suivre son parcours pendant 3 ans. Puis 2 ans après, il est secrétaire d'Edmond Picard. Ça, c'est tout de même déjà quelque chose d'important au point de vue, disons, de la pensée avec lequel il collabore. Puis, au début de sa carrière, il s'occupe de questions de droit industriel, de propriété intellectuelle, de brevets d'invention. En 1995, il publie chez Larcier « Des droits et des obligations des entrepreneurs de droit public ». Puis un traité sur les contrefaçons dans les pandectes belges. Rien de tout cela ne le prédestine vraiment au droit international. Il s'implique par la pensée et par l'action dans divers mouvements, toujours teintés d'internationalisme, la franc-maçonnerie, le socialisme, le féminisme, le pacifisme. C'est sans doute comme ça qu'il va rencontrer le droit international. Je ne vais pas revenir sur tout ce que l'on a expliqué sur le militantisme pacifiste, ayant à côté de moi la personne la plus célèbre en Belgique, qui a écrit une magnifique thèse à cet égard et qui n'a cessé d'en parler un petit peu partout. Mais enfin, vous savez qu'il a été dans... La Fontaine s'est trouvé dans toute une série de mouvements de la section belge de la Fédération internationale d'arbitrage, dans le Bureau international de la paix à Berne, dont il sera d'ailleurs président. Et donc, c'est un, quand on lui donne ce prix Nobel, il est attribué, on dit certes à l'internationaliste, qui a le plus œuvré en faveur de la paix et la concorde entre les peuples, mais c'est en sa double qualité de secrétaire général de la Société belge pour l'arbitrage et la paix, et le président du Bureau international de la paix. Ça fait déjà une différence avec les deux précédents qui avaient été sélectionnés, plutôt l'un parce qu'il était un institut de droit international et l'autre parce que surtout il avait été un praticien diplomate dans ces matières. Il a un tournant vers 1894 vers le socialisme. C'est assez clair, parce qu'il passe du libéralisme de gauche, où il était, c'était un bourgeois dans le fond, lui aussi, pas un grand bourgeois, mais un bourgeois tout de même, et il passe du libéralisme de gauche au socialisme. Il y est attiré, il crée d'abord une revue qui s'appelle La Justice, et qui expose des vues socialistes. Enfin, il entre à ce moment-là au Sénat, et j'expliquais tout à l'heure à Martikoskenemi que dans cette institution, il y entre non pas à la suite d'une élection à suffrage direct, mais par ce que l'on appelle cooptation, qui est faite par des groupes régionaux, des centrales politiques. Donc, ce sont directement des entités socialistes qui le nomment, déjà de l'establishment socialiste dans les régions qui le nomment. Dès lors, sa voix ne va pas cesser de se faire entendre dans ce Sénat pour défendre, notamment au moment du budget du ministère des Affaires étrangères, ou par des interpellations, pour faire avancer les problèmes de démilitarisation et de règlement pacifique des différends. Voyons maintenant ce qu'il a fait en matière d'enseignement. Ici, ce qui est essentiel, c'est la scission qui existe entre les membres du corps professoral et d'étudiants, qui se réclament du socialisme et du libéralisme progressiste, défenseurs d'ailleurs du principe de libre examen, beaucoup plus que les entités qui étaient à la tête de l'université à l'époque, et qui, à la suite d'abus manifestes de la droite pour empêcher certaines idées socialistes, notamment celles de Reclus et d'autres, et à la suite de ça, il crée l'Université Nouvelle et aussi l'Institut des Hautes Études de Belgique. Tout cela se passe en 1894. Et l'Université Nouvelle restera jusqu'en 1919, c'est-à-dire donc qu'elle pratiquement un peu plus de 20 ans. Je ne sais pas qui a pu appeler notre ami La Fontaine dans cette Université Nouvelle. Mais quand on regarde ceux qui en étaient les créateurs, on ne se pose pas longtemps la question. Il y a Edmond Picard, dont il a été le secrétaire. Il y a Émile van der Velde, qui est à ce moment-là une personne essentielle du POB, qu'il a créé en 1885, et qui a poussé La Fontaine à adhérer au POB en 1894. Il y a Louis de Broucker, qui est un de ses amis, Guillaume de Greef, qui était le seul professeur de l'Université de Bruxelles qui avait démissionné et qui était devenu du coup recteur de l'Université Nouvelle. Donc, tous ces gens le connaissaient et ont probablement été ceux qui l'ont appelé, parce qu'à ce moment-là, l'Université Nouvelle cherchait des profs. Hein, ça, c'était le bon temps. Hein. Et il est entré. Et alors, c'est intéressant de voir ce qu'il a enseigné. J'ai retrouvé ça dans les archives de l'ULB, en tout cas les titres, j'ai retrouvé les programmes. Il a enseigné éléments de droit des gens pendant 20 ans. Il a enseigné l'élément de droit international privé de 1894 jusqu'à 1912. C'est tout de même aussi un certain bail. Il a aussi été associé au cours d'économie politique de 1903 à 1909. J'ai essayé de voir si ça correspondait à la période où il avait écrit son ouvrage sur le collectivisme, mais il ne semble pas tout à fait. Mais parallèlement, il enseigne à l'Institut des hautes études de Belgique. Et c'est important parce que c'est important de le signaler parce que l'institut en question, qui est parallèle à l'école nouvelle pendant un certain nombre d'années, va lui continuer sa vie à partir du moment où l'université nouvelle va disparaître. L'université nouvelle disparaît en 1919. Tandis que l'institut de hautes études, il est toujours existant aujourd'hui. Or, on voit que pendant la période, disons, de coexistence, il y enseigne quoi? Il y enseigne le droit de la famille pendant 13 ans. Le droit de la famille. L'économie politique pendant 4 ans. Et puis, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il donne pendant 20 ans, c'est-à-dire qu'il va y être jusqu'à sa mort, il donne des cours ou des conférences sur des thèmes qui sont en rapport avec la SDN. Il faut dire que comme Henri Rollin, pas Gustave Rollin-Jacquemin, mais comme Henri Rollin, il était tout de même, malgré ses critiques, un des tenants de la SDN. Une série de conférences sur le droit mondial, sur le désarmement, la criminalité de la guerre, et toute une série de problèmes de relations conflictuelles, il donnait facilement, pendant ces 20 ans, plusieurs cours à la fois. Quelles sont maintenant ses publications scientifiques? Le seul vrai document de droit international qu'il ait publié, c'est la Pasicrisi internationale, histoire documentaire des archives, des arbitrages internationaux de 1794 à 1900, et qui sera d'ailleurs publié, enfin en résumé, dans la revue de droit international et de législation comparée, dans une synthèse de 3 articles qui paraîtront à la même époque. C'est la seule fois qu'il a participé, j'ai encore vérifié toutes les tables, c'est la seule fois qu'il a participé à ce sanctuaire, comme revue de l'Institut de droit international. Il n'a jamais publié rien d'autre. Et je dirais que, à part cet article-là, il n'y a pas, à part ce livre-là, il n'y a pas grand-chose d'autre de pur droit international dans ses écrits. Celui-ci, par contre, est très magistral. Il avait été véritablement fait avec beaucoup de soin, et c'était la première fois que l'on répertoriait tous ces arbitrages. Je vous dirai bien plus. C'est que lorsque les Nations Unies se sont décidées à faire un recueil des sentences arbitrales, ce que tout le monde attendait, eh bien, ils ont dit, nous, on va commencer à partir de la Cour permanente d'arbitrage, c'est-à-dire dans les années 20. et tout le reste, on ne publie pas. Il y avait là différentes raisons. Enfin, il y avait aussi certaines raisons qu'on estimait que tout ce droit ancien, c'était tout de même très colonialiste et qu'il ne fallait pas le publier. Il a fallu attendre 2007 pour que l'on publie les sentences qui se trouvaient dans le bouquin de La Fontaine. Autrement dit, il n'y avait pas moyen de les trouver si ce n'est là. Moi, je me souviens que j'étais à ce moment-là jeune prof et j'essayais partout pour trouver ce livre. La Pasi Grisi International, vous rendez compte, en plus, Pasi Grisi International qu'il avait appelé. J'ai essayé partout pour le trouver. J'ai essayé dans les antiquariats, etc. Un jour, à la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères, j'étais en très bon terme avec le bibliothécaire, je m'aperçus qu'ils avaient deux exemplaires. Et je me suis mis à le supplier, à lui faire des caresses, etc. Et alors, en lui parlant que nous à l'Université de Bruxelles, on n'avait pas la Pasi Grisi International. Il me l'a donné. Et alors, j'ai demandé qu'on le garde dans la réserve précieuse et qu'on ne le sait qu'à des doctorants ou des gens dont on était sûr qu'ils ne nous le piqueraient pas. Et moi, je l'ai trouvé où ? Sur un antiquariat américain. Quelques années. C'est comme ça que j'en ai un exemplaire, personnellement. C'est donc un grand bouquin. Et me fondant là-dessus, je m'étais toujours dit, mais pourquoi, en effet, n'est-il pas été plus connu comme internationaliste ? Parce que ce qu'il a fait après, The Great Solution, Magna Carta, etc., c'est sans doute une vision possible du droit international, mais on ne dirait pas que c'est du droit international positif, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. La politique, là, je viens de vous le dire, il a été un sénateur extrêmement actif. Il ne s'intéressait d'ailleurs pas uniquement au droit international, mais il s'intéressait à la politique, pas uniquement à la politique internationale, mais il s'intéressait à bien d'autres choses aussi. Il a toujours été à l'extrême gauche du POB. La façon dont il s'adressait, d'ailleurs, était toujours assez brutale, je dirais, à l'égard du gouvernement. Il a été, à un moment, délégué de la Belgique à la conférence de la paix pendant 1919-1920, puis on l'avait mis dans la délégation belge à la SDN, mais bien que, selon Henri Rollin Junior, il jouit d'un très grand prestige à cause de son pacifisme, enthousiasme et ses relations internationales, néanmoins, dès l'année suivante, on ne renouvelle pas son mandat. Il a eu quelques opinions exprimées qui n'ont pas plu. J'y reviendrai. Pour moi, j'ai intitulé cet exposé que je vous fais « Henri Lafontaine en marge ». Et je voudrais m'expliquer maintenant. En marge d'abord d'une carrière professorale à l'ULB. Mais ceci s'explique assez facilement par une série de facteurs. Un certain nombre de vous qui font carrière ici le comprendront tout de suite. Une telle carrière n'a pas l'air de l'intéresser au départ. Il ne s'attelle pas à une thèse d'agrégation, comme devait le faire Émile van der Velde, qui lui avait fait la thèse d'agrégation en droit. Il ne se fait pas remarquer par des publications scientifiques. S'il fait quelque chose d'important, comme je viens de vous le dire, c'est à 48 ans. Il publie donc cet ouvrage important. Il s'agit de... Mais pourquoi est-ce qu'il le fait ? Il ne le fait pas comme une thèse doctorat ou comme un ouvrage scientifique. Il le fait en vue de convaincre les gouvernements de l'efficacité de l'arbitrage. En réalité, ce n'est pas un ouvrage scientifique. C'est un ouvrage de propagande. Non, mais en tout bien, tout honneur. En tout un tas de causes, la chaire de droit des gens était alors dans les mains d'internationalistes éminents. Alphonse Rivier, de 84 à 98, qui a été à un moment président de l'Institut de droit international et en tout cas très longtemps secrétaire général de l'Institut de droit international, Ernest Neys, qui est quand même un très grand historien, en tout cas, de l'histoire du droit international, et même un grand internationaliste. Puis Maurice Bourquin, un diplomate chevronné, qui lui-même était d'ailleurs, avait de hautes fonctions ici à l'ULB. Donc, vous voyez, il n'aurait pas eu de possibilité à ce moment-là. D'ailleurs, le droit international, ça faisait quoi? Peut-être 15 heures par an. Donc, il fallait avoir un autre métier pour pouvoir le faire. Alors, en réalité, d'ailleurs, je crois que s'il avait dû enseigner à l'université, ce n'est pas tellement en droit international qu'il aurait dû aller, mais il aurait dû aller dans les relations internationales, il aurait dû aller en Sciences Po. Alors, s'il publie encore ça et là, ultérieurement, un article juridique, c'est toujours dans un but pacifique, c'est toujours dans le but de défendre des positions de ses idéaux socialistes ou internationalistes. Il est donc en marge des sociétés savantes. Je crois que maintenant, Marty vient de vous expliquer ça très clairement. Mais si vous prenez les gens qui, entre 84 et 80 et 1920, quand lui, il avait entre 40 et 60 ans, parce qu'on n'est jamais, c'est rare que l'on entre jeune à l'Institut, c'est tout de même une gérontocratie. Si vous voyez les gens qui y étaient, ou qui y ont été, c'était François Laurent, Émile de Lavelay, Ernest Neys, Alphonse Rivier, Gustave Rollin-Jacques Mince, Albéric Rollin, c'est-à-dire le père de notre Henri Rollin, Adolphe Prince, Édouard Rollin-Jacques Mince, qui allait devenir juge ultérieurement, le baron Lambermont, le chevalier Descamps, qui allait devenir, c'est pour ça que vous allez comprendre le on, qui allait devenir baron. Ce n'est pas parce qu'il était professeur à Louvain que je dis ça. Alors, c'était d'ailleurs un homme qui se débrouillait fort bien. Émile Banning, Paul Herrera, ça c'est peut-être déjà un peu plus, moins clair. Il y a des privatistes, Charles de Vichère, Maurice Bourquin, Ernest Maheim. Vous voyez qu'à côté de tous ces noms de droit international, notre brave ami ne fait pas le poids. Que penser des institutions arbitrales? Peu de personnes se sont employées autant que lui pour obtenir que la Belgique devienne partie à la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, sauf sans doute le chevalier Descamps, qui lui avait fait de très très bons textes, très sérieux, très solides. Mais quand enfin la Belgique fait partie de la Convention de 1999 et que la Cour est constituée, le gouvernement ne pense pas à lui pour y représenter la Belgique. Qu'est-ce que l'on prend? On prend le Bernhardt, dont on vous parlait il y a un instant, Lambermont, Descamps, Rollin-Jacques Mince. Puis, ultérieurement, on va y faire rentrer Ernest Neys et puis Arendt. Donc, autrement dit, encore une fois, à chaque fois, des gens qui sont tout de même plus chevronnés ou qui sont déjà à l'Institut de droit international. C'est ça, la porte d'entrée. Il est aussi en marge d'une représentation gouvernementale dans les négociations de traités internationaux ou par une activité de conseil. Il n'est pas là. Ou s'il y est, comme s'il y va, quand il y va, ça foire. Il est à la gauche du socialisme, franc-maçon. Il va atteindre le 30e degré en 1936. Ça ne le rend pas tellement sympathique aux milieux catholiques qui sont dominants en Belgique. Féministe, ça ne le rend...
pas du tout.
Pour personne. Il est partisan du suffrage universel à 21 ans, alors que c'est 24 et c'est censitaire. Et pour tout le monde, y compris les femmes, vous vous rendez compte? Bon. Donc, il s'associe à une condamnation de la politique belge au Congo à l'égard des indigènes en 1909. Alors ça, plus sacrilège que ça, tu meurs, comme on dit. Hein. Bon. Il est favorable à la gestion internationale des colonies dans son projet, dont on vous parlait il y a un instant, la Magna Carta, et encore en 1921. Il n'était donc pas fait pour plaire à une société majoritairement catholique et conservatrice. Son profil gauchiste et provocateur fait que ses propositions sont repoussées par le ministère des Affaires étrangères au Sénat. Alors c'est très très drôle. Il propose une motion au Sénat dans laquelle il demande au gouvernement d'agir pour la cour permanente de la Haye. Mais il le fait dans des termes extrêmement virulents, repoussés immédiatement par le ministre des Affaires étrangères. Descamps prend la parole avec une voix doucereuse. Il dit exactement la même chose et il propose une motion qui, au lieu d'avoir dit invite, etc., suggère que... Enfin, il change trois mots, mais au fond, c'est exactement la même chose. Tout le monde applaudit. C'est vraiment pour vous montrer que c'est une question de la personnalité même qui était un repoussoir pour tous ceux qui ne partageaient pas ses idées. Il le remarque lui-même, et ce qui évidemment aussi n'est pas fait pour plaire, c'est qu'il a son mot, un franc-parler, pour tout ce qui concerne ce que font les grands. Il attaque d'une manière virulente les Anglais à propos de leur guerre contre les Boers, hein, et leur annexion du Transvaal. Il a des mots qui, à partir de ce moment... Il défend les Arméniens. Alors, tout ça, vous vous rendez compte, le met dans une situation qui fait qu'il ne peut pas faire partie de l'establishment. Alors, à la fin de cet exposé, je voudrais poser... C'est ma thèse annexe. C'était quelque chose qui existait jadis. Il y avait la thèse principale et puis il y avait la thèse annexe. Ma thèse annexe porte sur... L'ULB est-elle justifiée de se l'approprier dans ses prix Nobel? Je vous dirais que je pense que oui. Même s'il fut dissident, il œuvra, pense, après son passage à l'ULB comme docteur en droit, il œuvra ensuite pendant 20 ans. Il œuvra d'abord dans une section dissidente de l'Université de Bruxelles, mais qui était en réalité la meilleure pensée de l'Université de Bruxelles. Dans des temps plus mauvais, peut-être que le Centre de droit international se trouverait dans une situation similaire. Donc, il est donc par là... Il est la pensée de gauche de l'Université de Bruxelles. Il est aussi, tout de même, aussi pendant 20 ans, à l'Institut des hautes études de Belgique, qui lui est rattaché administrativement à l'ULB. Alors ça, c'est un peu du positivisme juridique. Hein. Mais il faut parfois l'utiliser quand ça peut être utile. Par son libre examen, ses idéaux, il fait partie de ces gauchistes que cette université... a heureusement aussi le chic de s'attacher de temps en temps. Voilà.